Puis vient un homme, Alexandre le Grand, qui prend possession finalement du coup d'une immense partie de la région. Son empire va de la Macédoine jusqu'au fleuve Indus, ce qui est à peu près équivalent à l'Afghanistan actuel, jusqu'en Égypte. En moins 333 avant Jésus-Christ, la région de la Palestine, du coup, est conquise par Alexandre le Grand. Et la Syrie, au nord, jusqu'en Égypte, tout ça lui appartient. 10 ans plus tard, apparemment, Syrie a envie de raconter des choses. On lui a demandé de se taire. 10 ans plus tard, Alexandre le Grand meurt, laissant derrière lui un empire divisé par ses successeurs. Des guerres éclatent entre les successeurs, et notamment les Lagides et les Séleucides. Les Lagides au sud, avec l'Égypte, et les Séleucides au nord, avec la Syrie. Ce partage se fait après des guerres, et au final, en moins de 100 avant Jésus-Christ, le roi Séleucide fait la guerre aux Lagides et gagne. Ce roi, c'est Antioche III ou Antiochus III. Ce roi, faisant la guerre et gagnant, récupère le territoire de la Judée. Ce territoire, finalement, du coup, maintenant, lui appartient. Il est plutôt en paix, il est plutôt favorable envers les Juifs. Mais après sa mort, un autre prend la relève. Et ce roi va être destitué par Rome, d'une certaine manière. Et rapidement, son frère prend le pouvoir. Et ce frère s'appelle Antiochus IV. Antiochus IV a été complètement baigné dans la culture d'où il provient, mais également romaine. Antiochus IV se fait même appeler le choisi des dieux, ou le ouin des dieux, ou le béni des dieux. Quelque part, ce roi a une telle vision de sa culture qu'il en vient finalement, du coup, à être même appelé par les gens de l'époque comme fou. Plusieurs choses arrivent. Premièrement, il décide de supprimer des lois juives. Et puis comme finalement, du coup, le fonctionnement du peuple juif ne lui convient pas, il remercie le grand prêtre, Yohanan, il décide d'y placer un autre, son frère, qui lui est très grec dans sa tête. Toute sa pensée est très grecque. Puis finalement, il va même le remplacer encore par un autre, qui lui, finalement, avait même promis au roi qu'il allait pouvoir s'enrichir à travers le trésor du temple. Antiochus IV a encore plus faim de territoire et il fait encore la guerre contre l'Égypte, mais il est stoppé par Rome. Imaginant le roi mort, le peuple juif se révolte. Et notre histoire, qui nous intéresse vraiment, commence ici. Nous sommes avec des révoltes qui éclatent. Des décrets sont produits, notamment le Shabbat devient interdit, circoncision interdite, loi alimentaire interdite, et si on ne respecte pas tout ça, c'est la peine de mort. À cause de cela, plusieurs milliers de Juifs périrent, parce qu'ils refusaient de se plier à ce changement, à ces nouvelles lois qui étaient iniques. Un homme se lève un jour dans son village. Cet homme est un prêtre, il s'appelle Mattathias. Cet homme, se levant, refuse de sacrifier, comme on lui avait demandé, de sacrifier aux idoles. Il se révolte, il tue le faux prêtre, et avec des juifs, il quitte leur région pour partir dans les montagnes. Là, ils deviennent un peu comme des résistants, un peu comme des maquisards dans leur coin. Et régulièrement, ils viennent attaquer dans la vallée, les différents autels qui sont érigés pour les faux dieux. Cela dure à peu près plusieurs dizaines d'années. pas bien longtemps, puisque Mattathias devient vieux, il sent sa fin approcher et il réunit ses fils. Il les encourage à prendre la suite, il les encourage à se battre pour ce qui est juste, pour ce qui est vrai. Parmi eux, un homme. Son nom est Judas. Et le nom qui lui est donné, c'est le nom Maccabée. Ce nom Maccabée provient des premières lettres d'une suite de mots qui est Mi Kamocha Baelim Hachem, qui veut dire « Qui est comme toi parmi les puissants, ô Dieu ?» Cet homme, Judas Maccabée, décide de continuer le combat. Le roi Antiochus IV est fou de rage. À mesure que finalement ces hommes se rebellent, il semble que cette poignée, comparée à l'armée d'Antiochus, enchaîne les victoires. Deux armées contre Judas se soldent par un échec. Finalement, Antiochus lance 40 000 soldats contre le pays. Le pays est à la possession complète, domination totale par Antiochus IV. Judas et ses frères se réunissent et voilà ce qu'il leur dit. Combattons jusqu'à la mort pour défendre notre âme et notre temple. À ce moment-là, le temple de Jérusalem est saisi, souillé, des idoles sont mises, des idoles grecques sont mises dans le temple, les trésors, notamment le grand chandelier, est volé. Le peuple juif se rassemble à Mitzpah, un lieu particulier, c'est le lieu où Samuel, le prophète Samuel, avait offert des prières à Dieu. Ils se rassemblent et, décidant d'aller jusqu'à perdre leur vie, ils partent. Ils combattent. Et après une série de durs combats, la victoire est à eux. Les Maccabées rentrent à Jérusalem pour la libérer. Ils entrent dans le temple. Ils purifient toutes les idoles placées par les Syriens grecs. Et en lieu et place, un nouvel autel est construit. Cet autel est inauguré le 25 Kislev 3622. De l'année juive. La menorah d'or étant volée, il décide d'en construire un nouveau, d'un métal moins riche. Pour l'allumer, il cherche de l'huile. Il ne trouve qu'une petite fiole, avec le sceau du grand prêtre, celui qui avait été destitué par Antiochus. Mais cette fiole n'est suffisante que pour un jour. Il décide d'allumer, malgré tout, la lampe. Et alors que la lampe aurait dû durer un jour, voilà que miraculeusement, elle dure 8 jours. Le temps qu'il a fallu au peuple pour créer à nouveau de l'huile. Chaque année est fêtée la fête des Lumières. Est fêtée l'inauguration, cette fête de la redédicace du temple et de la consécration du nouvel autel. Un chandelier est particulier. Il a 9 branches. Le chandelier qu'on retrouvait dans le temple en avait 7. Celui-ci en a 9. Au centre, il y a le shamash, le serviteur, et autour, les 8 branches. Ces 8 branches représentent finalement ces 8 jours où Dieu a fait un miracle. À travers ce miracle, c'était l'approbation que Dieu était d'accord de soutenir son peuple. Finalement, le peuple juif régulièrement a vécu à travers, on peut le lire dans le texte des Juges, notamment, un petit peu des pentes et des côtes, où il monte sur la montagne de Dieu intérieurement et il s'effondre dans la vallée en redevenant finalement du coup idolâtre et en s'acoquinant des rites païens. La pensée derrière tout ça, c'est que finalement, le gros défi c'était: est-ce que les Juifs sont prêts à laisser rentrer la pensée païenne en eux? Pour certains, c'était déjà le cas. Mais une poignée a dit non. Et parce qu'une poignée a dit non, le peuple entier, a quelque part pu être racheté. Pour nous, en tant que chrétiens, si Jésus a dit oui pour venir sur terre, et s'il a dit non à tout ce que lui promettait Satan dans le désert, c'était pour nous racheter. Cette victoire, c'est la victoire de l'adoration de Dieu et du respect de ses commandements sur la culture et l'adoration grecque païenne. Au final, c'est la fête des Lumières. C'est la fête des Lumières pour tout juif, pour toute famille juive. Chaque famille se réunit dans sa maison et allume chaque jour une bougie de plus. En fait, la vérité, c'est qu'il rallume la première bougie le deuxième jour avec une deuxième. Elle se consume toute la journée, puis il rallume le troisième jour trois bougies, puis quatre bougies. À chaque fois, moi, au début, je pensais que c'était une bougie après l'autre. Mais en fait, elle se consume entièrement et ils en rallument un certain nombre. On pourrait dire que ça fait quand même pas mal de bougies à la fin des 8 jours. Certains peuvent faire le calcul rapidement. Au fond, ces bougies nous parlent de quelque chose d'assez fort. Cette bougie doit être mise en évidence pour que les gens puissent la voir de l'extérieur de la maison. Cette bougie, finalement, du coup, c'est pas juste uniquement une petite bougie qui est, moi, personnellement, je peux m'amuser dans mon coin à essayer d'avoir une piété, à essayer d'aimer mon Dieu dans mon petit coin. Mais c'est plutôt ce que je suis doit se voir. Ce que je crois doit se voir. Pas pour que je puisse me glorifier, parce que le miracle de ces 8 jours n'est pas le miracle finalement du coup d'hommes et de femmes, mais c'est le miracle que Dieu maintient allumée la lumière dans la maison. Pour les Juifs, cette fête a un sens profond. Et je vais lister un petit peu les différents sens. N'ayons jamais peur de défendre ce qui est juste. Même si en face, l'armée est plus nombreuse, soyons comme les Maccabées, prière sur les lèvres, foi dans le cœur, et combattons pour ce qui est juste. N'hésitons pas à toujours augmenter notre bonté, notre amour et notre respect pour ce que le Seigneur nous enseigne. C'est un encouragement à faire briller cette lumière dans nos vies chaque jour. Et si c'est difficile, parce que justement il y a un combat, et si c'est difficile parce que finalement du coup je suis dépassé, eh bien c'est de se rappeler qu'une toute petite lumière se voit de très loin dans la nuit. Aussi, quelle que soit l'obscurité, je suis appelé à faire briller ma lumière, car même petite, elle éclaire les ténèbres. Même petite, elle change les ténèbres en lumière. Et soyons manifestes, pas de boisseau. Une lumière doit se voir, ne soyons pas cachés. Que notre amour ne soit pas que dans le cœur, mais que cet amour soit agissant. Et enfin, n'ayons pas honte d'accomplir les commandements du Seigneur. Même si on se moque de nous, même si on est différent, soyons fiers de porter cette flamme en nous. Cette flamme, c'est Christ. Christ, notre lumière. C'est une lumière qui éclaire toutes les autres. Nous portons cette lumière. Il y a finalement, du coup, dans toute cette histoire, beaucoup d'enseignements pour nous. On y retrouve des beaux parallèles aussi avec ce que Jésus n'a pas enseigné. Finalement, on se retrouve un peu dans une culture que Jésus, lui, avait. On se rend compte que finalement, du coup, ce que dit Jésus n'est pas complètement étranger à ce qu'il vivait à l'époque. Et quand Jésus va dire « Je suis la lumière du monde », il ne dit pas quelque chose complètement sorti de tout contexte. Il leur explique qu'au final, ce qu'ils attendent, ce qui est écrit dans la parole, que nous pouvons retrouver dans Ésaïe, dans les psaumes, et je vais lire quelques petits passages rapidement. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils, où dans Jean, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ou encore dans les psaumes, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus est venu préciser, finalement, qu'il est celui que le peuple attendait. Et plus que ça, celui dont le monde a besoin. Cet encouragement est un encouragement pour chacun d'entre nous. Bien souvent, nous sommes un peu travaillés. Moi, j'étais un peu interpellé, moi, par la vie aussi d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand réalise des conquêtes militaires extraordinaires, devient un des personnages les plus influents de l'Antiquité. Et au final, dans sa trentaine, il meurt sans descendant. Qu'est-ce qu'il laisse derrière lui ? Un empire qui se divise immédiatement. Je crois même qu'il est mort à 33 ans, si je ne dis pas de bêtises. Quel exemple. Pour Napoléon, c'était un exemple extraordinaire. Quel exemple pour nous ? Est-ce qu'on a envie de vivre quelque chose comme ça où finalement, du coup, notre gloire devient complètement fade dès lors que ce que nous laissons derrière nous n'est que division ? Une autre personne est arrivée plus tard, lui aussi est mort à 33 ans. Mais son héritage est beaucoup plus grand. Finalement, son empire, même si parfois peut sembler divisé, à cause de points doctrinaux, peut-être parfois un peu idiots, son esprit est maintenu. Son esprit continue d'être déversé. Et sa lumière continue de briller. Alexandre le Grand, maintenant, il est dans certains livres d'histoire. Mais Jésus est vivant. Finalement, ce miracle, c'est le miracle de qui est comme toi parmi les puissants, ô Dieu. Et si parfois aujourd'hui, on peut se dire, mais notre culture est fichue, tout ce que finalement nous avions dans la loi qui protégeait les uns les autres, qui donnait du sens à la dignité humaine, si tout ça est en train d'être balayé à mesure que nous avançons, nous pouvons soit avoir une optique défaitiste et dire de toute façon c'était écrit, de toute façon ce monde est voué finalement aux flammes de l'enfer, ou peut-être même aux flammes de purification si ce n'est pas l'enfer. On n'arrive pas trop à savoir de quelle flamme il s'agit. De toute façon, en fait, il faut bien que ce monde aille de plus en plus dans l'iniquité pour que finalement Jésus revienne vite. Et parfois, on est même à espérer que finalement ça s'accélère pour que Jésus revienne au plus vite. L'autre possibilité, c'est finalement du coup d'être un peu comme ce Judas Maccabée et sa famille. Sommes-nous prêts à combattre jusqu'à la mort pour défendre notre âme et notre temple ? Ce temple, c'est le corps de Christ. Moi, il y a quand même quelque chose de particulier dans la vie de Paul aussi qui m'interpelle, et j'aimerais vous le partager aussi. Paul n'avait pas d'enfant naturel. Mais ses fils ont porté un message au-delà même des frontières de là où il avait lui-même été. ce qu'il a investi dans la vie des gens a résonné sur des milliers d'années. Et on pourrait se dire, mais les détracteurs de la foi chrétienne n'hésitent pas à dire. Mais Paul a tout inventé, il a constitué une nouvelle religion. Mais quand on voit que ce qu'il a reçu était conforme aux évangiles reçus par les apôtres, qui eux avaient vécu avec Jésus, il a confronté ce qu'il avait reçu avec ce que les disciples de Jésus avaient vécu. Au final, cet homme, qui était un érudit parmi les Juifs, tout à coup se met à adorer un homme. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que finalement il adore un homme en disant « cet homme est Dieu et il s'est révélé, il est vivant et il règne pour l'éternité ». Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Au point que ça change tout dans sa vie, au point où il en arrive à dire « mon but, c'est Christ ». Mon but, c'est de le connaître. Mon but, c'est de le saisir. Et tout ce que je connais, tout ce que je sais, toutes mes compétences, je vois ça comme de la boue. Parce que je veux le saisir. Tous mes doctorats, tous mes masters, je vois ça comme de la boue. Si tant est que je peux saisir Christ. Et il y a un moment un peu particulier, c'est dans la vie de Paul, où il sait qu'il doit aller à Rome. Mais à Rome, il sait aussi que ce qu'il attend, ça va être la mort. Et Luc et les autres disent à Paul, mais n'y va pas, on t'en supplie, n'y va pas. Et il leur répond, mais vous m'attristez, vous me faites pleurer, les frères. Croyez que j'ai envie d'y aller. Il dit, mais j'ai envie, en fait, du coup, d'y aller pour mourir pour Christ. J'ai envie, en fait, du coup, il a offert sa vie pour moi, j'ai envie d'aller offrir ma vie pour lui. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Si le Saint-Esprit nous guide, de quoi avons-nous peur? Cette fête, c'est la victoire du petit nombre face au grand. C'est pas toujours la majorité qui a raison. Sinon, Noé aurait eu tort. Notre enseignement, notre encouragement pour aujourd'hui, c'est de chercher toujours ce que le Seigneur veut, quelle est sa pensée. Comment, Seigneur, veux-tu que je brille aujourd'hui? Que dois-je faire, Seigneur? Ce temps de reconnaissance, ce temps de réappropriation dans cette fête, c'est vraiment un temps de réjouissance où le peuple se remémore ce que Dieu a fait. Il se remémore finalement le miracle qu'il s'est passé. Il se remémore la victoire de l'adoration du vrai Dieu contre l'adoration des faux dieux. C'est un moment un peu particulier. Et quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons régulièrement qu'il y a une confrontation entre le vrai Dieu et les faux dieux. Et j'y pense maintenant, mais c'est vrai que c'est l'image que j'ai choisi de mettre à l'arrière de mon téléphone. C'est le retour de Christ en gloire. C'est vrai que je pourrais l'afficher, mais malheureusement, je n'ai pas l'image à vous montrer. C'est le retour de Christ en gloire, avec son armée d'anges. Et parmi eux, évidemment, il y a l'ange Michaël, l'épée au clair, et l'ensemble des faux dieux en dessous fuit. Ils savent que leur fin a sonné. Et j'aime beaucoup cette image. Moi, c'est mon espérance. c'est que finalement toutes les idoles qui parfois dans nos vies nous maintiennent un petit peu encore captifs, Christ les a vaincus à la croix et leur fin définitive est proche. Et s'il les a déjà vaincus à la croix, alors je peux me rattacher à cette victoire et déjà avoir aussi la victoire dans ma vie aujourd'hui. Je ne suis pas obligé de toujours subir. Il est dit finalement que Christ construit son Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il n'est pas dit que l'Église doit se terrer peureuse, attendant comme elle se peut, supportant et veillant timidement. Non, elle doit être conquérante. Conquérante déjà en nous-mêmes. Nous devons chercher à conquérir les territoires où le péché est encore présent. Finalement, c'est mettre de l'ordre là où le Seigneur pointe du doigt, dans nos vies déjà. Est-ce que je n'ai pas finalement du coup un temple parfois à reconsacrer? Est-ce que je n'ai pas parfois dans ma vie des idoles à détruire? On pourrait dire que c'est le travail d'une vie, mais on peut faire confiance au Seigneur. Le Seigneur, si on lui pose la question, il va toujours pointer dans nos cœurs, là où nous pouvons encore grandir. Et l'avantage avec le Seigneur, c'est qu'on peut toujours retourner vers lui simplement en disant « Pardon, merci et avançons. » Mais pas que. Le Seigneur nous montre aussi peut-être, pointe du doigt là où le péché est dans nos cités. Notre première cité, c'est la famille, mais c'est aussi notre lieu de travail, notre voisinage. Sommes-nous appelés finalement du coup à prendre l'épée et à mettre à sac notre entreprise? Je ne suis pas forcément sûr que ça doit être comme ça. Mais avec sagesse, comment est-ce que le Seigneur veut que nous puissions travailler à reconsacrer ces lieux? À faire changer finalement du coup là où le péché avait déjà une emprise. Et vous pourriez me dire, mais je ne suis que salarié, ou je ne suis qu'étudiant, ou je ne suis que. Mais Judas Maccabée n'était que. Suis-je prêt aussi à dire non lorsqu'on me demande de mentir, lorsqu'on me demande de manipuler pour mes intérêts ou pour les intérêts d'un autre? Suis-je prêt? Suis-je prêt aussi à enseigner ce qui est droit, ce qui est juste? Même si peut-être mon fils, ma fille va peut-être me détester sur les 5 prochaines minutes. Suis-je prêt aussi parfois à dire non à mon voisin, peut-être pour des choses qui finalement il m'inviterait à participer? Et puis j'aimerais aussi inverser un peu la balance. Suis-je prêt à dire oui là où je vois finalement du coup un encouragement, une bénédiction, ou même où je vois finalement du coup un acte de justice dans ma famille? Suis-je prêt à l'honorer et à le manifester comme étant finalement du coup ce que le Seigneur veut mettre en évidence? Et sur mon lieu de travail, est-ce que je suis prêt aussi, lorsque je vois en fait finalement du coup un acte qui pourrait passer inaperçu, à le mettre aussi en lumière, en évidence, afin que finalement du coup il y ait toujours l'honneur du bien, l'honneur du beau, l'honneur de ce que le Seigneur veut? Et suis-je prêt aussi du coup à inviter mon voisin afin que lui participe à des choses qui viennent honorer et glorifier le Seigneur? Pas forcément le besoin de l'inviter à vivre un culte à la maison, mais il y a différentes étapes. Ça peut être déjà partager un repas. Ça peut être prendre le temps aussi peut-être de l'écouter. Ça peut être aussi l'encourager à changer certaines choses qu'il fait peut-être mal. Je vous avais déjà parlé la dernière fois du temple que nous sommes. Si ce temple est nettoyé, notre parvis est disposé. Et ce nouvel autel qui est inauguré, c'est là où nous accueillons en fait les personnes. Les personnes peuvent donc finalement du coup sacrifier ce qui est dans leur vie contraire à la volonté de Dieu. N'oublions pas que c'est la lumière de Dieu qui brille dans le temple. Par mes propres efforts, je peux essayer de faire changer les gens. Je ne vais pas forcément y arriver. Il faut que ça vienne d'eux. Et qui d'autre que Dieu pour incliner les cœurs ? Mais je peux simplement demander au Seigneur qu'il m'inspire pour que ce que je puisse dire soit juste la bonne parole qui vienne toucher au cœur. Je n'ai pas besoin d'être un savant. Je n'ai pas besoin de faire Bac plus 12 en théologie systématique. Je peux laisser finalement du coup certains livres de côté. Mais je peux m'imprégner de la parole de Dieu et de me laisser conduire jour après jour par le Seigneur, par son esprit, afin juste d'avoir la bonne parole au bon moment. Ce temps, cette fête, Hanouka, est une fête aussi pour nous, où nous pouvons nous rappeler vraiment de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Parfois, nous ne sommes pas forcément certains. Certains sont déjà avancés dans la foi depuis de nombreuses années, mais qu'importe. Si nous sommes rentrés ici et que c'est la 5e fois, 20e fois ou 350e fois, ce matin est un temps un peu à part que nous voulons prendre pour demander simplement à Dieu qu'il nous montre là où il a été présent, là où sa fidélité a été manifestée, là où sa bonté a été manifestée. Ne serait-ce que juste dans l'année que nous venons de vivre. Donc je nous propose de prendre un temps de silence, simplement pour demander au Seigneur qu'il nous montre. Seigneur, merci parce que cette année je me suis marié et tu m'as donné une épouse merveilleuse. Quand bien même il y a certaines années, j'étais parfois un peu à me poser des questions si vraiment j'étais fait pour le mariage finalement. Seigneur, tu as été bon, tu as été fidèle. Seigneur, merci parce qu'au travail, tu as été fidèle également. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'issues et une de mes collègues était complètement démoralisée. Seigneur, toi, tu as su la relever. Et elle a retrouvé espoir. Merci Seigneur. Si vous voulez exprimer votre reconnaissance au Seigneur à voix haute, n'hésitez pas. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Oui Seigneur, tu connais le nombre exact de cheveux que l'on a sur la tête. Et c'est vrai que cette question moi, me trotte encore dans l'esprit. C'est toi qui connais tout cela me concernant, jusqu'où veux-tu t'impliquer dans ma vie ? Jusqu'où, Seigneur, veux-tu t'impliquer dans notre vie, dans nos vies ? Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Cette pierre angulaire, c'est Christ. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules qui ne croient pas, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Eh bien, Seigneur, c'est notre prière encore aujourd'hui. Seigneur, garde-nous encore à pouvoir être des bons témoins de qui tu es, des bons témoins de ta présence dans nos vies, des bons témoins de tout ce que tu as accompli. Seigneur, donne-le-nous de pouvoir finalement marcher simplement, attaché à toi. Seigneur, nous voulons aussi prier pour celles et ceux qui peut-être nous calomnient, se moquent de nous. Seigneur, nous prions afin que tu puisses les visiter un jour et qu'ils puissent te reconnaître. Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui nous maudissent. Nous voulons les bénir. Seigneur, que ta grâce et ta bonté puissent les toucher. Seigneur, nous voulons, pour cette fête de Hanouka, nous voulons nous rappeler que tu nous as arrachés aux ténèbres pour nous amener dans ta glorieuse et admirable lumière. Seigneur, nous voulons aussi nous engager tout à nouveau pour mettre de l'ordre là où toi tu pointes du doigt, même si parfois ça prend du temps et que ça fait mal. Nous ne voulons pas nous taire, nous ne voulons pas faire semblant, mais nous voulons honorer tes enseignements. Nous voulons le faire dans nos vies, dans notre famille, notre travail, notre voisinage, notre église, dans notre pays et dans ce monde. Seigneur, nous voulons briller également. Nous voulons briller et veiller, et que cette peur, peut-être, qui est parfois dans nos cœurs, puisse disparaître, car elle n'a pas lieu d'être dans le camp des enfants de lumière. Préserve-nous du mal, Seigneur, et garde-nous attachés à toi. Amen.